De lire avec vous ce passage dans Ésaïe chapitre 55, un texte que vous sûrement vous connaissez déjà. Ésaïe chapitre 55 et au verset 10, il y a dans ce texte une image qui est donnée par rapport à la parole de Dieu et les effets bénéfiques qu'elle produit dans une vie. Ésaïe 55 verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Est-ce que vous aimez la pluie? Bon, on n'aime pas forcément la pluie. Mais quand il s'agit de la semence, si vous posez la question à la semence et qu'elle pouvait vous répondre, elle vous dirait combien elle aime la pluie. Ce moment rafraîchissant où elle peut tirer toutes sortes de choses bénéfiques pour sa croissance. Et quelle image est donnée merveilleuse que la parole de Dieu est exactement ce rafraîchissement sur les cœurs qui peut amener quelque chose dans nos vies et produire du bon fruit. Il y a dans la fête du fruit en ce moment, mais combien nous croyons qu'il y a un fruit qui est encore meilleur, même si le chasselas de Moissac, il est internationalement connu, il y a un fruit qui est encore meilleur. C'est le fruit de l'esprit dans la vie d'un croyant. Et vous avez vu ce verset? C'est sur ce verset que je voudrais insister. Ainsi en est-il de ma parole, elle ne retourne point à moi sans effet. Littéralement, il est dit, ma parole ne retourne point à moi à vide. C'est-à-dire que c'est impossible que l'on entende la parole de Dieu et qu'on puisse retourner à vide si on a le cœur ouvert. Il y a quelque chose qui va nous être communiqué. Bien sûr, si on a le cœur fermé, ça va faire que résonner et ça va. Vous savez, la parabole du semeur, il y a les cœurs qui sont semblables à le chemin sur lequel tout le monde passe. C'est ceux qui ont entendu la parole, mais qui... C'est rentré par une oreille, c'est sorti par une autre. Mais nous, ce matin, on n'est pas dans cette catégorie de personnes. On est de ceux qui croient que la parole de Dieu ne retourne jamais à vide. Et il y a une petite femme dans la parole de Dieu qui a expérimenté ces choses. C'est dans le livre deuxième livre des rois, au chapitre 4, une histoire toute simple qui montre une femme qui était dans une difficulté particulière, une femme qui avait plusieurs situations difficiles qui s'ajoutaient les unes aux autres. Elle a expérimenté que la parole de Dieu ne retournait point vide. Deux Rois chapitre 4, verset 1er. Deux Rois 4, verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. Connaissez cette histoire? Combien j'aime ces moments où le Seigneur manifeste sa bonté. Je le rappelais, je crois, c'était vendredi, que la religion pure et sans tâche, ça consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. C'est exactement ce qu'a pu faire Élisée, même si c'est elle qui est venue le voir, mais il a pu manifester le secours de Dieu pour cette veuve. Mais avant de pouvoir réfléchir à cette question, qu'est-ce qu'il y a dans la maison de cette veuve qui a fait qu'il y ait pu avoir la bénédiction? Vous avez vu, il n'y avait rien et il y a eu l'abondance. C'est quand même merveilleux. Est-ce que c'est de la faute de la veuve? Disons que c'est pas elle qui a permis qu'il y ait l'abondance. Mais par contre, elle avait dans son cœur les conditions qui ont fait que Dieu a pu manifester son abondance. Alors qu'elle partait d'une maison quasiment vide, Dieu a pu venir dans cette situation et régler toute chose. Mais avant de pouvoir réfléchir à qu'est-ce qu'elle avait dans sa maison, dans son cœur, qui a permis que Dieu agisse, j'aimerais d'abord vous poser la question, qu'est-ce qu'il avait Élisée pour que Dieu puisse se servir de lui? Qu'est-ce qu'il avait dans sa maison? Bon, vous savez qu'Élisée, c'est celui qui a dit à Élie qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Élie, c'était un prophète de Dieu qui a fait des miracles magnifiques, et Élisée, c'était son disciple. Et à un moment donné, Élisée a eu cette foi de dire « Je veux être ton successeur dans le ministère, qu'il y ait sur moi une double onction de ton esprit. » Est-ce que nous sommes assoiffés du Saint-Esprit? Parce qu'Élisée, en tout cas, c'est ce qu'il était, lui. Dans son cœur, il avait cette soif pour la vie de l'Esprit, cette soif pour la présence de Dieu, et ça se traduisait par cette communion avec le Seigneur. Ça se traduisait quand on étudie tous les miracles qui ont pu être faits par Élisée. Vous savez qu'il y en a deux fois plus de miracles que ceux d'Élie. Il a eu la double onction, il a eu deux fois plus de miracles, et le Seigneur est quelqu'un qui est là pour bénir ses enfants, mais surtout ceux qui sont assoiffés de sa présence. Et cet homme était dans la communion avec Dieu. Il avait cette crainte de Dieu. Cet homme, il connaissait Dieu. Il savait que, par exemple, il connaissait sûrement ce verset que David avait composé des années avant. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Élisée, il savait ça, que rien ne manque à ceux qui le craignent. Et quand cette veuve est venue, il a pu lui partager ce conseil. Ne t'inquiète pas, Dieu, il a quelque chose pour toi. Même si ta maison, elle est vide, Dieu, il a quelque chose pour toi. Élisée, il savait peut-être que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Cette femme, elle était dans la détresse, et il a pu lui dire, c'est le meilleur moment pour toi de regarder vers le ciel et de crier à ton Dieu, parce qu'il est toujours prêt à secourir. Élisée, il avait aussi cette clairvoyance. Quand vous étudiez tous les miracles qu'il a fait, vous rendez compte qu'il sort des solutions qu'on ne sait pas d'où. Et c'est pas des solutions auxquelles on aurait pensé. J'ai regardé un petit peu tout ce qu'il a fait. Mais à chaque situation qui est difficile, il ne refuse pas déjà de voir ce qui est compliqué. Il refuse pas de voir qu'il y a la misère. Il refuse pas de voir. Vous savez, des fois, dans l'épreuve, on refuse. Dans l'épreuve, on veut voir que le positif. Mais c'est bien de faire un état des lieux et de dire, ben oui, mais ça va pas. Élisée, il était comme ça. Mais par contre, il ne laissait pas la tristesse, l'accablement régner dans son cœur. Et alors qu'il est intervenu à chaque fois qu'il y avait eu un problème, il y avait toujours un vide. À un moment donné, il n'y avait pas de bonnes eaux. Les eaux étaient mauvaises. Il manquait de la bonne eau. Et il y a quelque chose qui s'est passé qui a permis que l'eau puisse être rétablie. À un moment donné, il n'y avait pas d'eau du tout. À un moment donné, il y avait la famille, pas de nourriture. À un moment donné, il y avait une femme qui était dans la stérilité, il n'y avait pas d'enfant. Il y avait un vide dans son cœur par rapport à ça. À un moment donné, cet enfant qui est venu miraculeusement, il est mort. Et Élisée a pu être une bénédiction. À chaque fois qu'il est intervenu, il y a quelque chose qui s'est passé. Et comment est-ce que nous réagissons quand nous sommes dans l'épreuve? Comment est-ce que nous réagissons? Est-ce que nous refusons de voir ce qui ne va pas? Ou est-ce que nous le regardons sciemment, ce qui ne va pas, mais nous crions à Dieu, « Seigneur, donne-moi la solution. » À chaque fois qu'Élisée s'est retrouvé dans ces situations, il a eu cette inspiration divine qui a fait qu'il a pu répondre et savoir comment répondre, savoir comment faire. Des fois, on est perdu. Quand on réfléchit par nous-mêmes, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment agir dans telle ou telle situation. Ou alors, il n'y a que moi qui est comme ça. Non, vous êtes d'accord? Et c'est là qu'on a besoin de cette communion avec Dieu qui nous montre la solution qu'on n'aurait jamais pensé. Vous auriez pensé, vous, aller jeter du sel dans les eaux amères pour qu'elles deviennent bonnes? Est-ce que c'est ce que vous auriez fait? Moi, à la maison, j'ai de l'anthésite. Et vous savez, quand l'eau a un arrière-goût, je mets l'anthésite, ça donne un petit goût d'anis. Mais c'est juste fait pour masquer le goût. Tandis que là, il a mis un peu de sel, et ce qui s'est passé, c'est que les eaux ont été totalement transformées. Et quand nous mettons le sel de la présence de Dieu dans notre vie, c'est ce qui se passe pour chacun de nous. Est-ce que vous auriez pensé à mettre de la farine dans le plat qui était empoisonné? Vous auriez au contraire jeté le plat comme moi, hein. Vous auriez cherché à faire un autre plat, mais bon, il y avait la famine. Et Élisée, par le Saint-Esprit, a mis la farine, et le plat est devenu bon. Est-ce que vous auriez pensé à jeter un bois pour faire surnager le fer qui était perdu? Qui aurait fait ça? Il n'y a que quelqu'un qui est inspiré par le Saint-Esprit, qui savait ce qui allait se passer. Nous avons besoin de rechercher cette parole de révélation de Dieu qui nous communique quelque chose pour nous combler, pour pas qu'on reparte à vide. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait dans la maison de la veuve? Pourquoi la parole du Seigneur n'est pas retournée à vide dans cette maison? Il y a des conditions, elles sont très claires dans ce texte. D'abord, il y a un vide. C'est important. Mais c'est important de voir qu'il y a, souvent dans nos situations, il y a des vides qui sont là. Pour elle, il y a un vide affectif. Elle vient de perdre son mari. C'est un moment difficile, douloureux. C'est un moment particulier. Et je crois qu'elle se, il y avait des soirées sûrement où elle revoyait où son mari avait l'habitude de s'asseoir, les phrases qu'il avait l'habitude de dire, et toutes sortes de souvenirs qui revenaient. Et puis, des fois, elle arrivait à passer par-dessus, et c'est ses enfants qui lui rappelaient, tu te souviens quand papa il disait ceci ou cela? Et vous sentez qu'il y avait quelque chose de difficile, un vide affectif dans son cœur. Mais le problème, c'est que cet homme, non seulement, il était là en tant qu'époux et qui prenait soin de sa famille, mais il pourvoyait aussi à leurs besoins. Et dès l'instant où il est parti, il y avait le vide affectif, mais il y a eu le vide financier. Ça peut arriver d'avoir des vides financiers, hein. Je crois qu'il suffit d'interroger nos comptes et ça, on y est vite dans ces moments-là. Et non seulement ça, mais à cause de ce vide financier, il y avait une menace d'un vide familial. On allait lui retirer ses enfants. Cette femme allait se retrouver sans rien. Plus de famille, plus de mari, plus de sous, plus d'enfants, plus rien dans sa maison. Mais par contre, il y avait quelque chose qui était là dans son cœur. Et cette femme avait besoin d'entendre cette parole qui ne retourne pas à vide. Parce qu'elle était dans ce vide immense. Dans cette maison, il y avait la crainte de Dieu. Son mari, c'est ce qui nous a été rappelé dans ce texte. Son mari, il avait la crainte de Dieu. Ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Vous savez que cet homme, c'était un des fils des prophètes. Ça veut dire qu'il avait dédié sa vie à prêcher la parole de Dieu, à dire des messages de la part de Dieu. Est-ce que c'était une époque facile à l'époque? C'était l'époque de Jézabel et du roi Acab et les successeurs. Et vous savez, ils faisaient des choses horribles à tous ceux qui apportaient la parole de Dieu, tous ceux qui n'adoraient pas les idoles. Pourtant, cet homme un jour a choisi de servir Dieu dans ces conditions difficiles, a choisi de marcher devant Dieu, même si le roi, même si les autorités étaient contre, il a choisi de marcher devant Dieu et d'apporter la parole de Dieu. Et la femme lui dit à Élisée, mais tu le connais en plus. Sûrement que Élisée a dû venir lui faire un cours à un moment donné. Parce qu'il y avait l'école des prophètes, c'était un des fils des prophètes, c'est-à-dire qu'il participait à cette formation, et sûrement qu'Élisée avait dû venir enseigner quelque chose. En tout cas, Élisée connaissait cet homme. Élisée savait. Quand elle a dit qu'il avait la crainte, Élisée, tu peux confirmer. Oui, oui, il avait la crainte. Mais il n'y avait pas que lui, cette femme aussi. Elle avait la crainte de Dieu, ce respect de Dieu, qui fait que on s'attache à lui, peu importe les circonstances. Dans sa souffrance, elle est venue à Élisée pour chercher le secours. Est-ce qu'elle n'aurait pas pu aller voir sa famille? Est-ce qu'elle n'aurait pas pu aller demander des sous aux voisins pour essayer de faire quelque chose? Mais elle connaît le poids des dettes. Vous savez qu'il y a un verset dans la parole qui dit « Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes ». Des fois, quand on est dans les dettes, on a tendance à aller voir les personnes pour essayer de s'endetter pour rembourser d'autres et la situation ne fait que s'empirer. Et je connais des personnes comme ça. Je sais plus si je vous en ai parlé. En tout cas, des personnes qui, même dans l'église, n'osaient plus venir à l'église parce qu'ils s'étaient tellement endettés auprès des frères et sœurs qu'ils avaient honte de venir. Et jamais ils ne remboursaient. À un moment donné, ils sont partis carrément de l'église. Quel dommage. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Cette femme avait la crainte de Dieu. Et dans l'affliction, dans le vide financier, elle a dit « Moi, je ne veux pas compter sur les hommes, je veux compter sur Dieu. » Je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Dans sa maison, il y avait de l'honnêteté. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, à la place d'Élisée, à quelqu'un qui est dans la misère? Est-ce que vous l'auriez dit « Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison ?» Quelqu'un qui vient vous expliquer que cette situation, elle est catastrophique, et vous lui dites « Mais qu'est-ce qu'il y a dans ta maison ?» Est-ce que c'est ce que vous auriez dit? Moi, ce n'est pas ce que j'aurais dit, en tout cas. Mais Élisée, par le Saint-Esprit, il lui dit ça. Pourquoi? Pour qu'elle reconnaisse que dans son cœur, dans sa maison, il n'y avait rien qui pouvait venir l'aider. Et elle est honnête, cette femme, parce qu'elle dit « Je n'ai rien du tout. Qu'un vase. Je n'ai rien du tout. » Elle se rend compte que dans sa maison, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a qu'une seule chose. Mais on y viendra tout à l'heure. Est-ce que de quelque chose qui est vide, Dieu peut amener la bénédiction? Il l'a déjà fait. Bon, on a lu cette histoire, on peut dire au moins dans cette histoire, c'est le cas. Mais je voudrais vous expliquer ce matin que c'est une loi dans le royaume de Dieu, quand quelqu'un est vide, et qu'il met sa confiance dans la parole de Dieu, alors la parole de Dieu ne retourne point à vide. Et il y a l'abondance de la grâce de Dieu qui germe. Parce que c'est une loi de la parole. Si vous ne croyez pas, regardez le ministère d'Élisée, juste avant, chapitre 3, il se trouve un moment où l'armée est là, et il y a l'ennemi qui arrive, et l'armée d'Israël se retrouve sans eau. Ils n'ont pas d'eau. Et ils font appel à Élisée. Alors c'est au chapitre 3, au verset 15. Élisée, il vient, et voilà ce qu'il dit. « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Il a entendu la musique et il a été saisi dans la présence de Dieu. « Ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. » Amen. Quelle était la solution? Ce peuple, il est là, il manque d'eau. Et Élisée, il leur dit, mais oui, creusez, faites le maximum de places vides, faites le maximum de fosses. Et ce qui s'est passé, c'est, on voit dans la suite du verset, c'est que non seulement ce qu'Élisée a dit, ça s'est accompli, mais en plus, ils ont pu remporter la victoire sur les ennemis parce qu'ils ont retrouvé la force en buvant de cette eau. Mais est-ce que Dieu peut amener la bénédiction sur ce qui est vide? Oui. Et plus ils ont creusé de trous, plus l'eau a pu venir et plus ils ont pu étancher leur soif. Et combien des fois on a besoin d'avoir cette honnêteté devant Dieu pour dire « Seigneur, je suis vide. Tu vois, dans tel domaine, Seigneur, j'y arrive pas. C'est pas possible pour moi. Seigneur, je suis vide, mais j'ai besoin de toi. Je crois que toi, tu peux faire quelque chose. » Vous connaissez l'histoire aussi, quand le peuple, c'est l'armée d'Assyrie, de Syrie qui vient entourer la montagne et Élisée est là avec son serviteur, juste au centre, la petite maison. Et le serviteur, ce matin, il se lève, il regarde et il voit une armée qui est là tout entière, qui entoure la maison. Est-ce qu'il avait raison de ne pas être rassuré? C'est sûr. Au point de vue humain, c'était sûr. Et vous savez ce qui s'est passé? Élisée a prié et il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voit. Et cet homme, il a vu que par-delà l'armée, il y avait encore une autre armée plus puissante, des chevaux de feu, des chars de feu qui étaient là. C'était l'armée de Dieu, les anges de Dieu qui protégeaient son serviteur. Mais imaginez un instant qu'au lieu de cette montagne qui était vide, au-delà, hein, je parle, pas là, il y a l'armée qui est là, on est d'accord, mais plus loin. Humainement, là, c'est vide. Il n'y a personne. Mais imaginez à la place qu'il y avait, par exemple, le roi d'Israël qui était venu avec son armée. Est-ce qu'il aurait été rassuré pour autant? Ben, on n'est pas sûr, hein, parce que l'armée de Syrie à cette époque était très puissante. Et des fois, on essaye de dépendre de nos moyens humains. Mais combien c'était une bénédiction à ce moment-là pour cet homme que la montagne soit vide, parce que ça laissait la place à Dieu pour passer ses anges et c'est son armée qui était là pour les protéger. Combien c'est bon dans nos vies quand il y a des vides, parce que ça laisse la place, ça laisse le champ d'action libre au Seigneur pour qu'il puisse agir avec ses moyens à lui, avec sa puissance à lui. Et combien c'est bon de croire que le Seigneur veut multiplier, faire naître l'abondance dans nos vases vides, dans cette situation de cette femme. Qu'est-ce qu'elle a dû faire? Va chercher le maximum de vases vides. Des fois, on a besoin, par nous-mêmes, de regarder en nous et de voir qu'on est vide. Mais des fois, c'est en parlant avec des frères et sœurs. On se rend compte que lui, il a une vie de prière, c'est quelque chose d'incroyable. Mais moi, à côté, je suis totalement vide. Ou alors, cet homme, il est tellement généreux, bon, il prend soin des uns et des autres. Mais moi, à côté, je suis vide. Des fois, c'est en allant voir les voisins qu'on se rend compte qu'on est vide. Et c'est un petit peu ce qu'elle a fait cette femme, même si elle, c'était d'aller chercher les vases vides de ces personnes. Nous, on a besoin des fois d'aller voir notre ouverture, non pas pour se comparer, mais pour sonder nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin d'être honnête devant toi. Vous savez que dans la parabole des semeurs, encore une fois, ceux qui portent du fruit, c'est ceux qui ont ce cœur honnête et bon. Est-ce que nous sommes assez honnêtes ce matin pour reconnaître le vide qu'il y a en nous? Si oui, le Seigneur va pouvoir bénir. Si oui, le Seigneur va pouvoir pourvoir, va pouvoir multiplier. Dans la maison, il n'y a rien qu'une seule chose. Ta servante n'a rien du tout qu'un vase d'huile. Un vase d'huile. D'où est venue la bénédiction? Je vous pose la question. D'où est-ce qu'elle est venue la bénédiction?
Juste du vase d'huile. Il n'y avait qu'une seule chose dans la maison, mais c'était la chose par laquelle Dieu a choisi de bénir. Et le vase d'huile, c'est l'image du Seigneur Jésus qui vient dans une vie et qui manifeste sa présence. Et même si on n'a qu'une seule chose dans ce monde, si on n'a rien, il y a un chant qui dit « Tu peux prendre tout ce monde, mais laisse-moi seulement Jésus ». Si je n'ai que Jésus dans ma vie, alors j'ai l'abondance qui peut venir, parce que le Seigneur est celui qui est capable de combler, de manifester sa grâce. À une femme qui était là à ses pieds, et une autre qui courait partout, Jésus a dit, une seule chose est nécessaire. Marie, elle a choisi la bonne part, se tenir dans la présence de Dieu. Dans le psaume 27, David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Non pas, j'aimerais bien, je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Ça ne veut pas dire venir installer son camping, sa tente dans l'église, mais c'est tous les jours avoir cette vie en communion avec Dieu, près de notre Dieu, parce que le Seigneur désire avoir cette relation avec nous. Et Paul a dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Cette femme n'avait pas grand-chose dans sa maison, mais elle avait le principal. On peut avoir notre maison remplie de toutes sortes de choses, mais s'il manque le principal, ça sert strictement à rien. Et à chaque fois que je repense à l'exemple de ce jeune homme qui est reparti tout triste, moi-même dans mon cœur je suis triste. Et parce que combien de personnes sont dans sa situation à lui? La maison du jeune homme, comment elle était? Vous savez, celui qui est venu voir Jésus, comment avoir la vie éternelle? C'est super quand quelqu'un vient vous voir, je voudrais avoir la vie éternelle, comment il faut faire? Jésus lui parle et cet homme repart tout triste, parce qu'il avait de grands biens et il ne voulait pas mettre Dieu en premier dans sa vie. La maison du jeune homme, elle était pleine de choses. Il faisait des actes de piété, il connaissait les lois par cœur, il avait la richesse, il servait Dieu, mais il lui manquait le principal. Une seule chose est nécessaire. La présence de Jésus dans notre cœur. C'est ce qui était le cas dans cette maison, dans le cœur de cette femme. Elle n'avait qu'un vase d'huile, mais c'est l'image qu'elle avait, cette communion avec Dieu malgré tout, malgré la difficulté, malgré la misère. Il ne lui reste plus rien, le vide affectif, vide financier, mais il lui reste Jésus-Christ. Et sa situation a pu changer. Est-ce que nous avons la seule chose importante, la chose principale, duquel découlent toutes les bénédictions? Je pense à des autres exemples aussi, mais je ne voudrais pas rallonger trop, je vais en prendre un seul. Vous savez, à un moment donné, Josué venait de remporter une victoire incroyable face à la ville de Jéricho, quelque chose de magnifique qui s'est passé, sans rien faire de particulier, si ce n'est de tourner autour, les murs se sont écroulés. Les murs épais et hauts de cette ville se sont écroulés. Et le peuple d'Israël s'est commencé à être dans une certaine fierté. Et ils se sont dit, bon, la prochaine fois, ça sera la même chose. On va gagner de la même façon. L'Éternel est toujours avec nous. Et puis, ils sont partis tellement confiants qu'ils n'ont pas fait attention. Qu'il y en avait un qui avait dévié du chemin. Achan, il avait pris des trésors qu'il ne fallait pas prendre. Et parce qu'ils n'ont pas cherché Dieu dans ce moment-là, parce qu'ils se sont appuyés sur leur victoire du passé, ils ont connu une défaite. Alors que Dieu avait promis qu'il serait avec eux, mais ils n'ont pas voulu chercher Dieu à ce moment-là. Vous savez, on a beau avoir vécu, même dans le passé, des victoires magnifiques, c'est pas pour autant que la prochaine fois, on va remporter la victoire. On remporte la victoire dans les situations seulement si on a le principal au fond de notre cœur, si on s'appuie sur Dieu et sa communion. Et je finis avec cette pensée. Dans la maison de cette femme, il y avait l'obéissance. Et la foi. Vous savez, souvent on parle de personnes qui ont la foi et on regarde leur vie et on voit qu'il n'y a pas d'obéissance. Est-ce que c'est ça la vraie foi? Il y a beaucoup de gens qui ont la foi. Et Jésus, il a dit un jour, quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi sur cette terre? Je crois qu'il va trouver beaucoup de foi comme ça, des gens qui disent, oui, je crois en Dieu, mais ils n'ont aucune obéissance. Mais la Bible nous parle aussi de l'obéissance de la foi. La foi véritable, c'est celle qui nous amène à obéir au Seigneur, à faire ce qu'il nous demande. Et est-ce que Élisée n'aurait pas pu prier pour que l'huile se multiplie toute seule, que les vases ils apparaissent tout seuls? Il aurait pu le faire. Est-ce que le Seigneur est assez puissant? Il est puissant sur toute chose, il aurait pu faire cela. Est-ce qu'il n'aurait pas pu, encore plus simple, permettre que la veuve elle trouve une pépite d'or et qu'elle aille le revendre au marché et puis hop, c'est bon, ça a réglé les dettes? Oui, mais il voulait. Dieu voulait. Et Élisée connaissait tellement Dieu. Il savait ce qu'il voulait. Il voulait que la femme soit participante de son, de sa bénédiction. La foi, c'est quelque chose qui se manifeste dans le concret. Cette femme, elle a dû impliquer ses voisins dans son histoire. Elle a dû impliquer ses enfants. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'impliquer vos enfants quand vous êtes dans une situation difficile? Je repense à, et je finis avec ce témoignage, cet homme que j'ai connu à Sainte-Anne, qui m'a raconté ce qui s'est passé il y a quelques mois en arrière. Il travaillait, alors je crois qu'il est à Colomiers. Non, il habite à Colomiers et il travaillait de l'autre côté de Toulouse, si vous voulez, à l'opposé. Et il demandait au Seigneur, « Seigneur, j'aimerais tellement avoir un travail près de chez moi pour pouvoir ne pas perdre du temps dans les bouchons. » Je ne sais pas si vous connaissez les bouchons de Toulouse, mais vous pouvez aller voir un jour, c'est intéressant. Mais une seule fois, parce qu'après on n'en veut plus. Et on est mieux au calme à la campagne. Et en tout cas, on comprend tout à fait qu'il demandait au Seigneur, « Seigneur, fais quelque chose », et il n'y a rien qui se passait. Et puis il a eu cette idée un jour. Il a dit, « Mais je vais impliquer mes enfants. Parce que comme ça, quand Dieu va répondre, non seulement moi j'aurais vu qu'il a répondu, mais mes enfants aussi vont apprendre que notre Dieu est celui qui exauce la prière. » Et ce jeune homme, alors, avec ses enfants, toute la famille, ils étaient là et priaient tous les jours. Et les enfants, les petites filles, elles priaient, « Seigneur, permets que papa il travaille près de la maison. » Et ils priaient. Et à un moment donné, le temps passait et le gars, il voyait rien avancer. Il se demandait ce qui se passait. Mais tous les jours, les petites filles, elles persévéraient. Et puis un jour, il a été contacté dans le bureau. Et ils lui ont dit, les patrons, bon, mais tu as fait du bon travail jusqu'à présent, donc on a décidé de te mettre sur tel secteur. Et il se retrouve que l'entreprise dans laquelle il va travailler, elle est collée à la maison, elle est mitoyenne. Il se retrouve à travailler à côté de chez lui. Et en plus, la moitié du temps, c'est là, et la moitié du temps, il peut travailler chez lui. Et quand il a remercié le Seigneur, quand il a béni son Seigneur, Dieu lui a dit, mais c'est pas parce que toi t'as prié, c'est parce que tes enfants, ils ont prié. Des fois, ça vaut le coup d'impliquer nos enfants dans la prière. Parce que non seulement eux, ils voient que le Seigneur est vivant, mais toute la famille est encouragée. Et Dieu, combien il nous exhorte à être semblables à ses enfants, à ses petits-enfants, qui ont cette simplicité de cœur, cette humilité, de croire que celui qui pourvoit, c'est lui. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons vivre des choses comme ça? Moi, je vous dis ce témoignage, j'aurais pu partager des choses que j'ai vécues moi, parce que mes parents m'ont appris à prier le Seigneur. Mes parents m'ont donné ce goût à la prière, et quand j'ai vu que le Seigneur est exaucé, vous voyez, quand vous savez que ça marche, mais vous avez qu'une envie, c'est de prier. Vous n'êtes pas sous un fardeau, « Ah, il faut prier ce matin. » Mais quand vous savez que le Seigneur veut bénir, quand vous savez qu'il y a un vide, mais que la parole du Seigneur ne retourne point à lui sans bénir, alors vous avez soif de prier. On peut s'incliner, fermer les yeux, quelques instants, laisser l'Esprit de Dieu agir dans nos cœurs. Est-ce qu'il y a des vides ce matin dans nos cœurs? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a des choses qui nous manquent? Est-ce qu'il y a des qualités que nous n'avons pas et que nous voyons qui sont abondantes chez notre frère ou chez notre sœur qui est à côté de nous? Alors nous n'avons pas à nous culpabiliser, nous n'avons pas à nous accabler outre mesure. Nous avons à dire, Seigneur, ta parole ne retourne point à vide. Seigneur, je ne veux avoir qu'une chose, même si je n'ai pas grand-chose dans mon cœur, dans ma maison. Je veux avoir la chose principale, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ glorifié. Oui, je veux, Seigneur, cette communion avec ton Fils. Je veux, Seigneur, marcher dans tes voies. Je veux, Seigneur, avoir la crainte de ton nom. Je veux, Seigneur, avoir, Seigneur, cette honnêteté aussi, de reconnaître mes failles. Le Seigneur est celui qui veut bénir ce matin encore. Sa parole ne retourne point à lui sans effet. Éternel, nous te bénissons. Merci parce que, Seigneur, si nous sommes souvent dépassés dans les situations qui sont complexes, si nous sommes, Seigneur, sans secours, sans moyens humains, nous avons en toi un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans ces instants, Seigneur, tu connais les cœurs. Tu connais les vies. Tu sais ce matin qui se retrouve dans ce vide tellement profond qu'il a l'impression de perdre totalement pied. Seigneur, te demandons que ta parole puisse venir combler cette personne. Oh Jésus, oui, viens. Tu vois le cœur de ceux qui ont choisi de te faire confiance, ceux qui ouvrent leur cœur à ta parole. Seigneur, viens manifester ta vie. Viens couler avec abondance, que ta présence, Seigneur, puisse imprégner ces personnes. Et que dans les jours qui viennent, ils puissent voir la différence. Parce que quand tu agis, Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Quand nous mettons notre foi dans ta parole, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies. Parce que tu es le Dieu qui honore sa parole. Seigneur, bénis. Bénis chacun en particulier ce matin. Merci de consoler ceux qui sont dans l'affliction. Merci de relever ceux qui sont abattus. Merci de guérir les cœurs brisés. Merci de fortifier ceux qui perdent pied, Seigneur, qui n'arrivent plus à marcher sur le chemin. Seigneur, tu es celui qui donne la force. Amen.